podcasts de Radio Vatican.
À Ankara, Istanbul, Diyarbakır, 60 millions d'électeurs turcs sont appelés ce dimanche de Pâques en Turquie à se prononcer pour ou contre le renforcement des pouvoirs du président. Trois fois Premier ministre et depuis 2014 chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan a plaidé lors de ses meetings de campagne en faveur d'une plus grande stabilisation de la vie politique du pays. Il souhaite le défendre de la menace kurde ou syrienne et promet un coup de modernisation. Mais ce référendum populaire sur l'instauration d'un régime présidentiel en plein état d'urgence ne ferait, selon certains analystes, qu'entériner sa position de force si toutefois elle avait été affaiblie après le coup d'État raté de juillet. Étienne Copo, chercheur émérite au CNRS et ex-pensionnaire de l'Institut d'études anatoliennes, revient avec Marie Duhamel sur les principaux dispositifs de la réforme proposée par le leader du parti islamo-conservateur au pouvoir depuis 2002, l'AKP.
Le texte est un peu difficile à décrypter parce que ce n'est pas un texte qui expliquerait pédagogiquement les objectifs de la réforme. C'est simplement un assemblage de corrections, d'ajouts ou de suppressions de termes, de paragraphes existants dans l'actuelle constitution. Donc il faut jongler avec l'actuelle constitution et les modifications proposées pour se rendre compte un peu de la portée de la réforme. Par exemple, certains points qui sont, à mon avis, très importants, comme la suppression du poste de Premier ministre, n'est pas formulée clairement dans le texte. C'est simplement le texte dit, voilà, à tel article de l'ancienne constitution, le mot Premier ministre sera remplacé par Président de la République. Et c'est ainsi qu'on se rend compte de l'étendue des nouveaux pouvoirs qui sont conférés au Président de la République par la suppression du poste de Premier ministre.
Est-ce que c'est ça la principale réforme, la suppression du rôle du Premier ministre ?
Alors le Premier ministre est donc supprimé. Le président récupère beaucoup des pouvoirs du Premier ministre et en particulier une fonction, celle de chef du parti au pouvoir. Jusqu'à présent, donc la Constitution spécifiait le président de la République est au-dessus des partis, il doit couper ses liens avec le parti auquel il était attaché et au contraire, donc là le président de la République sera en même temps chef du parti. Alors, il y a une conséquence très importante dans le fonctionnement des institutions, c'est que en tant que chef de parti, il va pouvoir lui-même faire ou surveiller l'élaboration des listes de candidats aux élections. C'est lui qui va déterminer, directement ou indirectement par ses collaborateurs, qui sera candidat à la députation. Et donc les députés dépendront directement, leur carrière, leur élection, leur candidature dépendront directement du président de la République lui-même. Et on ne peut pas imaginer dans ces conditions qu'un député vote mal contre le président ou soit réticent à voter les mesures proposées par le président. Donc ça, c'est une première chose. Le deuxième volet, c'est que l'Assemblée nationale et le président doivent être élus le même jour, tous les 5 ans. Et là aussi, ça crée un amalgame entre les deux pouvoirs et une dépendance très forte de l'Assemblée nationale vis-à-vis du président. Le président peut dissoudre l'Assemblée très facilement et sans justification. Bon, et puis le président a un droit de veto sur les lois qui sont élaborées par l'Assemblée, un droit de veto qui n'existait pas auparavant. Ça n'est pas formulé comme ça, mais le président peut refuser une loi et l'Assemblée ne peut pas discuter ce veto.
Est-ce qu'on peut du coup dire que c'est la fin du régime parlementaire en Turquie tel qu'on l'a connu ou est-ce que l'Assemblée garde encore quelques pouvoirs ?
Non. En plus, les attributions du Parlement sont diminuées aussi. Par exemple, le Parlement ne prépare plus le budget. C'est un point très important. C'est le président de la République qui prépare le budget, le présente à l'Assemblée. Le Parlement ne peut pas modifier les propositions budgétaires du président. Il les approuve ou les rejette, mais s'il les rejette, le président peut imposer son budget de toute façon. Le Parlement non plus n'a plus le pouvoir de faire tomber un gouvernement, comme c'était le cas auparavant. Il existe en Turquie jusqu'à présent c'est l'équivalent d'une motion de censure, quoi, qui fait que, par exemple, jusque 2002, dans les années 90, il y avait énormément de gouvernements qui étaient renversés par le Parlement, ce qui fait que, d'ailleurs, il y avait une certaine instabilité gouvernementale. Ça ne sera plus possible. Il n'y a plus de motion de censure.
Donc, plus de Premier ministre, une Assemblée nationale avec beaucoup moins de pouvoir. Il y a quand même une nouvelle fonction qui a été créée, c'est celle de vice-président.
Le le président de la République, après son élection, va pouvoir nommer à sa guise, sans aucun contrôle d'aucune institution, un ou plusieurs vice-présidents qui seront nommés et révoqués selon la volonté du président sans aucun contrôle. Ces vice-présidents auront des pouvoirs assez étendus, notamment en cas de départ du président. Enfin, ils remplaceront le président lors de ses voyages à l'étranger ou bon, aussi en cas de maladie. On peut supposer qu'ils auront des pouvoirs étendus, mais en même temps des pouvoirs complètement dépendants du président lui-même. Ce seront des pantins dirigés par le président s'il n'est pas malade ou...
Un système présidentiel démocratique tel qu'on le connaît, fondé sur la séparation des pouvoirs, là, oui. On voit bien qu'entre le législatif et le pouvoir exécutif, il y a moins de séparation qu'avant. Qu'est-ce qu'il en est avec le pouvoir judiciaire ?
Avec le pouvoir judiciaire, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il existe en Turquie une institution qui est le Haut Conseil des juges et des procureurs. Ce qui est déjà un petit peu paradoxal, puisque juge et procureur, ce sont des fonctions qui sont un petit peu antagonistes dans un procès. Et ce conseil des juges et des procureurs, qui comporte, je crois, 15 membres, aura un président qui sera tout simplement le ministre de la Justice. Or, le ministre de la Justice, évidemment, est nommé par le président, là aussi sans aucun contrôle du Parlement. Hein, le président nomme les ministres à sa guise. Ce conseil a des fonctions, un rôle très important dans le déroulement de la justice, dans la carrière des juges. On sait que ces dernières années, notamment depuis l'épisode de la révolte de Gezi en 2013, même depuis 2012, c'est-à-dire depuis que le pouvoir est devenu très autoritaire, les juges et les avocats ont un rôle de contestation très important et il y a eu une répression très forte depuis des années, ce n'est pas seulement depuis le coup d'État de 2016, une répression très forte notamment sur les avocats, mais sur les juges aussi. Et donc ce conseil va entre guillemets mettre de l'ordre dans la profession et soumettre complètement la profession et donc la justice au pouvoir présidentiel.
Puisque vous parlez de répression, peut-être peut-on parler de l'organisation de ce scrutin. Est-ce que la campagne s'est déroulée de manière sereine ?
La campagne s'est déroulée de façon complètement inégale. Pour le dire simplement, la propagande électorale du parti au pouvoir, l'AKP, a été totalement libre et gigantesque, avec des affiches, des portraits, des meetings énormes, alors qu'au contraire, la campagne électorale des autres partis a été soumise durement à l'état d'exception, c'est-à-dire des restrictions au droit de réunion, au droit d'expression, à la presse, etc. De toute façon, la presse d'opposition a été muselée depuis l'été dernier. De nombreux journalistes sont en prison, et journalistes d'opposition. Les dirigeants du parti procure de HDP sont en prison également. Comme d'innombrables responsables locaux et militants. Les maires de beaucoup de communes du Kurdistan turc sont en prison également et beaucoup d'équipes municipales de ces communes ont été supprimées et ces municipalités mises sous tutelle du pouvoir. Donc on a vraiment un régime de fer qui dure maintenant depuis 2011 et qui s'est renforcé considérablement au cours de l'automne. Et un régime dans lequel il n'est pas possible de parler d'une campagne électorale normale.
Est-ce que néanmoins ce scrutin peut se dérouler de manière transparente, libre ? Est-ce que les gens vont pouvoir s'exprimer ?
C'est difficile à dire. J'ai moi-même été observateur lors du scrutin du 1er novembre 2015 avec l'association France Kurdistan à Nusaybin dans le sud-est sur la frontière avec la Syrie. Les autorités étaient prévenues de notre visite, donc on n'a pas assisté à des scènes de répression ouvertes. Mais enfin, on a pu constater déjà cette très forte intimidation et la présence partout de la police et d'une police lourdement armée à proximité ou dans les bureaux de vote. Donc là, étant donné que c'est état d'exception dans toute la Turquie, étant donné les circonstances très dures depuis juillet dernier, on peut supposer que cette présence policière et celle de l'armée va être encore plus forte. Les intimidations sont très fortes. On peut avoir visite de la police simplement parce qu'on a envoyé un tweet pour dire qu'on va voter non. Moi, je peux constater que sur les réseaux sociaux, je n'ai pratiquement plus de nouvelles de mes amis. Ils ne s'expriment plus. Il y a une très forte autocensure parce que s'exprimer librement, c'est vraiment s'exposer à de lourds ennuis professionnels ou à la répression dure. C'est difficile, mais pourtant, il y a des sondages qui expriment l'éventualité d'une victoire du non malgré tout. On en est à une période où la population commence à souffrir de ce régime autoritaire, de ses restrictions à la liberté, et puis qu'une extension des pouvoirs d'Erdogan, alors qu'il a déjà beaucoup de pouvoir, commence à faire un peu peur. Donc tout ça peut aussi s'exprimer.
Si le non l'emporte, est-ce que vous pensez que le président Erdogan peut élégamment renoncer à son projet ?
C'est difficile à dire. On peut imaginer qu'il s'inclinerait de manière fair play, au moins au début, et qu'ensuite, de toute façon, il a déjà tellement de pouvoir. Il y a des analystes qui disent que ce référendum, de toute façon, ce qui est proposé par le référendum, c'est l'officialisation de ce qui existe déjà. C'est-à-dire, bon, les pouvoirs du Parlement seraient supprimés, ou presque, mais c'est déjà le cas. Les pouvoirs du président seraient augmentés, mais il les exerce déjà. Le Premier ministre est un pantin, il n'a pas une très forte personnalité. Donc, il pourrait très bien s'incliner ou faire semblant de s'incliner et puis ensuite continuer de renforcer son pouvoir à l'aide de décrets ou simplement en tordant un petit peu la loi ou en profitant de l'état d'exception. Je n'en ai pas parlé. La nouvelle constitution faciliterait la proclamation de l'état d'exception. Une grande partie de la Turquie, tout le sud-est de la Turquie, même au-delà, a vécu sous état d'exception depuis les années 60. Et il suffirait de peu de choses pour permettre une extension de cet état d'exception et de toutes les limitations aux libertés fondamentales qui y sont associées.
Est-ce qu'il existe finalement aujourd'hui un contre-pouvoir en Turquie ?
Actuellement, non. Je crois qu'on peut dire non. Le contre-pouvoir, pendant longtemps, ça a été le parti kémaliste, le CHP, qui est maintenant très affaibli, et Erdogan a essayé, juste après la tentative de coup d'État de juillet, a essayé de le mettre de son côté, et le CHP s'y est un peu plié. Mais c'est un parti de toute façon qui est vieux, qui est faible, qui est mou, et qui n'a pas de volonté déterminée de lutter vraiment fortement contre Erdogan. Le parti pro-kurde HDP était une vraie force d'opposition qui a eu un fort succès aux élections de juin 2015 en ayant pour la première fois un grand nombre de députés. Cette élection de juin 2015 a été cassée, elle a été renouvelée en novembre 2015, mais malgré une campagne électorale terrible qui était celle d'attentats, d'intimidations, de bagarres, d'assassinats aussi, malgré cela, le HDP a réussi quand même à avoir des députés. Donc ça, c'est le vrai parti d'opposition et qui commençait à avoir du succès en dehors du monde kurde. Beaucoup de gens maintenant en Turquie pensent que la démocratisation du pays passe obligatoirement par la résolution du problème kurde. Et donc ce HDP a beaucoup de sympathie hors de la population kurde. Mais maintenant ce HDP est la principale cible de la répression, à part le mouvement güléniste, et il ne peut plus agir. Donc il n'y a plus de contre-pouvoir. Les contre-pouvoirs, ces dernières années, c'était aussi l'armée. Elle a été jugulée à partir des années 2000 et encore plus depuis cette année. Le contre-pouvoir, c'est aussi la justice qui est maintenant jugulée. Le contre-pouvoir de la rue, des mouvements étudiants, des mouvements de contestation, il a été très fort pendant 2 mois en été 2013, mais il a été réprimé. Pour l'instant, on se demande ce que ça devient, si l'esprit de Gezi de 2013 continue à souffler en souterrain, si on peut dire. Mais oui, il n'y a plus de contre-pouvoir.
Des propos recueillis par Marie Duhamel.